Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Et un peu à l'image de la semaine dernière, mais on reste en mode 35e Festival Québec BD. Très content de voir cet événement revenir et revenir en présentiel. C'est quand même le premier grand rassemblement autour de la bande dessinée à Québec, peut-être même au-delà au Québec. Alors, on est bien content et on a envie d'y consacrer un peu de temps également cette semaine. Alors, formule peut-être un petit peu différente. La semaine dernière, on a eu l'occasion, et l'émission d'ailleurs est toujours disponible en balado-diffusion sur lavieenbd.com, donc d'aller vraiment creuser sur la programmation comme telle du festival, survol d'auteurs, d'activités, d'expositions qui sont présentées. On a fait des clins d'œil à des éléments qui ont été d'ailleurs depuis annoncés de façon officielle, notamment le pavillon de la BD, donc ce grand espace d'exposition éphémère qui va être lancé le 9 avril et qui va rester présent dans l'espace public de Québec jusqu'à la fin de l'été. Un espace donc qui est l'espace 400e dans le fond, mais en version remix. Alors, on aura l'occasion d'y voir quelques expositions s'y passer là, au fil des prochains mois, des prochaines semaines. Très hâte d'aller voir ça au moment où on vous en parle. Ça n'a pas encore été inauguré, mais on ira faire un tour, c'est certain. Mais nonobstant les activités, mais évidemment, les festivals, les événements comme ça, et même par extension les salons du livre, mais c'est une occasion d'aller à la rencontre des auteurs, d'aller à la rencontre des autrices. Et à Québec, ben, on parle de plus d'une centaine d'auteurs qui sont sur place, principalement des auteurs québécois, des autrices québécoises. Il y a des gens de l'international également qui sont de passage. Alors, on s'est dit pourquoi pas s'intéresser un peu de façon précise à justement ces gens qu'on peut aller rencontrer au fil de la prochaine heure et peut-être en faire deux axes d'interprétation de votre côté. Donc, soit vous comptez effectivement aller faire un tour dans l'espace Québec BD au Salon du Livre de Québec, d'aller rencontrer physiquement ces auteurs-là en séance de dédicace, lors de rencontres et autres. Ou à l'inverse, mais vous nous écoutez peut-être d'un peu plus loin et vous ne serez pas, pour une raison ou une autre, à Québec pour le festival. Et bien, dans ce cas, la prochaine heure, considérez-la comme une riche liste de suggestions, de coups de cœur, des coups de cœur qui viennent de mon côté, évidemment, mais également du côté de collaborateurs et d'invités qu'on aura l'occasion d'entendre au fil de l'émission. J'ai demandé à deux libraires, Marco Duchesne de chez Pantoute, Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois, de me partager quelques coups de cœur. J'ai demandé également à notre fréquent collaborateur Stéphane Gravel d'en faire de même. Et également, en fin d'émission, il y aura Michel Giguère qui viendra faire un tour essentiellement pour placer la table vers le 13 avril, mais je pense aussi que ça peut être une belle idée rencontre, puisque son rendez-vous de la BD du 13 avril sera consacré au travail et à l'œuvre de Christian Quesnel. Christian Quesnel qui, ces dernières années, nous a offert Mégantic, Un train dans la nuit, nous a offert Vous avez détruit la beauté du monde, des œuvres magnifiques. Et évidemment, on suit son parcours depuis déjà plusieurs années et c'est un parcours qui est riche d'un auteur qui est capable et a la volonté d'analyser sa pratique, de développer ses méthodes. Bref, ça sera assurément une belle rencontre le 13 et ça sera peut-être une belle rencontre aussi pour vous au Salon du Livre de Québec et au Festival Québec BD. Alors voilà, un peu pour la mise en bouche, entre guillemets, de cette émission pour cette semaine ici à La Vie en BD. Et tiens, commençons immédiatement avec un de nos invités, Marco Duchesne de la librairie Pantoute. Salut Marco.
Salut Raymond.
Et bien, on le dit depuis tout à l'heure, donc le Festival Québec BD bat son plein. Et de ton côté, là, en matière de rencontres, de dédicaces, de coups de cœur, est-ce qu'il y aurait un kiosque, il y aurait un livre vers lequel tu dirigerais spontanément?
J'ai eu un coup de cœur pour un tout récent volume qui est paru à la Pastèque récemment. Ça s'appelle Paul. En fait, c'est un ouvrage de Michel Giguère et Michel Rabigliati. En fait, c'est un entretien que Michel a eu, ou des entretiens, ça a duré plus de quelques jours, des entretiens que Michel Giguère a eu avec l'auteur de Paul. Un premier livre pour Michel Giguère, et je te dirais que pour moi, enfin, c'est l'aboutissement de sa carrière, parce que moi, je connais Michel Giguère. Je te parle surtout de Michel Giguère. Paul et Michel Rabiati ont plus besoin de présentation. Alors, si j'étais un lecteur de bande dessinée, ce que j'aimerais le plus et ce que je vous suggère le plus, c'est de rencontrer Michel, d'aller faire dédicacer son volume, si vous avez une chance, pour jaser de BD avec lui. Et c'est ce qui ressort de ce livre-là, c'est toute cette carrière qu'il a passée à parler de BD, à travailler pour la BD, à partager ses connaissances et son savoir en BD. Et il n'y a rien de mieux que quand quelqu'un le fait de cette façon-là. L'ouvrage, c'est sûr que c'est des entretiens avec un auteur, avec Michel Rabiati, mais tout comme toi, Raymond, Michel Giguère a passé maître l'art d'interviewer, de faire sortir l'information de l'auteur, de le faire parler sur son art, sur lui, sur cette façon qu'il a de voir le monde. Moi, il m'est arrivé de faire des causeries avec des auteurs, mais je ne suis pas à la hauteur de ce que vous faites. Et Michel, ça ressort dans son bouquin. Mais il y a un petit plus dans cet ouvrage d'entretien-là. C'est que Michel, dans les différentes parties du volume, il s'insère et devient un peu professeur. Il nous enseigne quelques codes, quelques trucs de la bande dessinée et comment on doit la lire. Il se sert des albums de Paul pour le faire. Deux choses qui en ressortent, c'est que Michel Giguère est un grand vulgarisateur, il a donné des ateliers, mais là, dans cet album-là, eh bien, là, on apprend des choses, même moi, sa vision de ce qu'il nous montre en BD, j'ai appris des trucs, mais on apprend des choses. Et en plus, le bonus, c'est qu'on voit tout le génie de Michel Rabiati, qui maîtrise les codes de la bande dessinée, tel que le montre Michel Giguère. Alors, c'est vraiment un chouette album, c'est vraiment un bel entretien. Et l'objet comme tel dépasse le simple livre d'entretien. Il est agrémenté d'exemples, de dessins, de croquis, de petites bandes dessinées. En fait, ça en vaut vraiment la peine. Et si on se promène dans le salon du livre et qu'on on décide de visiter le salon, le festival de bande dessinée, je pense que c'est une sacrée belle occasion de se faire dédicacer cet ouvrage, mais d'aller parler avec Michel Giguère.
Oui, effectivement, puis tu as raison. En fait, c'est pas pour rien d'ailleurs. Je pense que c'est l'an dernier, Michel Giguère avait eu le prix hommage lors des BDIS Causa, parfaitement mérité parce que c'est une carrière, en fait, plus de 30 ans à travailler, à vulgariser, à agir comme médiateur, parce que je pense que c'est comme ça qu'il se présente, comme médiateur de bande dessinée. Et je trouve intéressant et un peu audacieux, d'une certaine façon, le pari qu'il a fait avec cet ouvrage-là, parce qu'on parle, comme tu l'as dit, en fait, très bien, on parle de Paul, et la série Paul est un peu l'excuse pour nous faire plonger dans la démarche d'un auteur, puis à travers ça, justement, nous faire découvrir la BD elle-même, de nous faire plonger dans les mécanismes, dans ce qui fait que ça fonctionne, dans les trucs du métier, si on peut dire, de l'auteur. Là, c'est une recherche hallucinante là, qu'il a fait.
Ah oui, tout à fait. Écoute, puis ça ne me surprend pas de lui, là. Michel, qui, on le dit, œuvre dans la bande dessinée à Québec depuis 30 ans. Moi, à mon arrivée, en 88, il était déjà pour Zeppelin, où il travaillait pour un fanzine, où moi, j'ai commencé à me joindre à ce groupe de BDistes, de gens qui parlent BD à Québec. J'ai rejoint ce groupe-là. J'ai eu la chance de les côtoyer et de côtoyer Michel pendant toutes ces 30 dernières années, parfois à travailler avec lui, parfois à monter ses projets et tout, à le voir monter ses projets. Et effectivement, là, ça ne m'étonne pas que cet ouvrage soit de cette qualité-là. Juste à voir le travail qu'il fait pour cette espèce de une fois par mois, il donne les rendez-vous de la BD à l'Institut canadien et le travail de recherche qu'il met là-dedans. Et surtout, ce qui ressort, à mon avis, ce qui fait la grande qualité de ce trouvage-là, c'est le plaisir encore qu'il a à parler de la bande dessinée et à partager. On le sait, là, on s'est parlé des pseudo-critiques qui imposent leur savoir et leur connaissance. Ce n'est pas le cas de Michel. Michel, c'est la passion et c'est le partage du savoir et des connaissances. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est un des, bons ouvrages sur la BD qui est paru, pas juste au Québec, là. Moi, je te parle de toute la production européenne francophone, là. C'est un des meilleurs ouvrages sur la BD qui est paru depuis des années.
Alors donc, du côté de Marco, sa direction, donc quand il arrive dans l'espace Festival Québec BD, dans l'espace Salon du Livre, jusqu'au 10, ben, on s'en va vers ce livre-là. Si jamais vous nous écoutez, vous n'êtes pas de Québec, bien évidemment, vous mettez ça dans votre besace de suggestions et de ce que j'en comprends, ta haute estime, cet ouvrage-là, et ta vive recommandation.
Tout à fait.
Hey, Marco Duchesne, salut bien.
Bon salon et bon festival.
J'y vais de mon côté avec quelques petits coups de cœur, quelques petites suggestions, évidemment parmi celles qui ne sont pas faites ou qui ne seront pas faites par mes différents invités. Alors, ben, tiens, allons-y un peu au hasard et au gré là, de la page québecbd.com pour vous pointer différentes personnes, notamment, ben, pourquoi pas Emmanuel Dufour. Emmanuel Dufour qui nous a offert « Ce n'est pas le Québec qui est né dans mon pays », un album dont je vous ai largement parlé au fil des derniers mois, de la dernière année, un album qui s'intéresse justement à cette nécessaire réconciliation entre le Québec et les nations autochtones, un album choral qui donne la parole à une cinquantaine de personnes d'origine autochtone diverse et qui nous amène également ben, à, d'un côté, se positionner face à ces réalités-là et face aux réalités qu'on a acquises aussi au gré de la culture populaire, qui nous fait plonger dans diverses perspectives autour de questions identitaires et qui nous force à prendre position ou à s'impliquer peut-être un peu plus activement autour de tout ça. Alors, pourquoi pas aller à la rencontre d'Emmanuel Dufour pour explorer avec elle, pour discuter, pour échanger ou pour découvrir cet album, si ce n'est déjà fait. Et dans le même registre, eh bien, pourquoi pas faire un clin d'œil également du côté de Blunk. Blunk qui nous avait offert, il y a, mon Dieu, 5-6 ans, 23h72, qui était le premier album couleur, je crois d'ailleurs, des éditions Pawpaw. Et donc, il nous est revenu avec Poisson à pâte l'automne dernier. Poisson à pâte, un album où Blunk nous amène dans les pas, dans le fond, d'un personnage assez différent des autres qui peuplent son album par le physique, mais aussi par le mental. Son intelligence dépasse largement la moyenne, ce qui fait qu'il cherche sa place, qu'il cherche à se retrouver dans ce monde à l'esprit un brin médiéval qu'il habite. Et on suit le personnage dans ses tribulations au fil d'un récit qui scellera son destin, disons-le comme ça, tout simplement. Et tiens, peut-être un petit troisième clin d'œil là, avant de passer à notre prochaine invitée. Alors, ben, Julie Doucet. En fait, Julie Doucet, je pense que c'est largement, largement incontournable d'aller à sa rencontre dans le cadre de la 35e édition du Festival Québec BD. Elle revient tout juste d'Angoulême où elle a obtenu le Grand Prix du Festival, en fait. Donc, un honneur immense et parfaitement mérité par cette autrice qui a marqué à sa façon la bande dessinée, qui a été parmi les premières à offrir de l'autobiographique, qui a eu un parcours qui l'a amené vers les États-Unis, vers l'Europe en termes d'édition, qui est peut-être un peu trop méconnue aussi, ou qui a été trop longtemps peut-être un peu trop méconnue au Québec également, en lien avec l'influence qu'elle a pu avoir sur plusieurs auteurs et autrices. Et ben, une autrice, en fait, qui nous est revenue cette année par le biais d'une belle édition presque intégrale d'une bonne partie de son travail, notamment ses fanzines Fantastic Plot qu'elle auto-éditait au gré des années 90. On avait eu l'occasion de lui parler un peu plus tôt cette année dans un grand entretien et on est bien content que vous ayez aussi l'opportunité justement d'aller à la rencontre de cette créatrice d'exception qu'est Julie Doucet. Alors voilà, donc trois petites suggestions de mon côté. Il y en aura peut-être d'autres plus rapides au fil du parcours de l'émission. Et maintenant, ben, on a Stéphane Gravel qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour.
Et de ton côté, ben, c'est un peu la question que je pose à tous ceux qui passent à l'émission aujourd'hui. Donc, tu arrives au Festival Québec BD. De ton côté, vers quel auteur tu te diriges au premier chef, au premier abord? Qui tu nous suggères, en fait, aussi d'aller rencontrer à cette occasion-là?
Il y a pas mal de, il y a pas mal de monde hein, quand même au festival cette année. Il y a il y a beaucoup d'auteurs québécois et ça, je suis obligé de dire que je suis fier de ça. Je suis content qu'il y ait autant de, d'auteurs du Québec. Avant, il n'y a pas si longtemps, on n'avait que des auteurs européens et on ne couvrait que les auteurs européens quand on allait au festival à bande dessinée. Mais dans les 10 dernières années, il y a tout ça est florissant et je trouve ça extraordinaire. Et la BD au Québec se porte bien. Elle se porte bien au Québec, se porte bien aussi à l'étranger. Moi, j'irais un petit peu vers ces personnages-là, que, ces auteurs-là que je trouve qui font partie du portrait, entre guillemets, mondial de la BD francophone. Exemple, Jeff, qui est un auteur qui fait sa marque depuis déjà un bon bout de temps. Dans le monde de la BD. C'est sûr que moi, j'aurais tendance à aller voir un auteur comme ça. C'est quelqu'un qui a été édité chez les grands éditeurs, chez les grands éditeurs européens. Il a été édité, me semble, chez Glénat. Il a été édité chez Soleil. Il est chez Dupuis avec Créature qui est une nouvelle série, hein, deux tomes, on peut dire que c'est une nouvelle série. Et je trouve cette série-là qu'elle est extraordinaire autant au niveau du scénario que du dessin. Là. Puis ça fait quand même un bon bout de temps là, que Jeff il travaille dans le milieu de la BD et qu'il persévère pour faire de la bande dessinée. Et dans ces grands noms-là, parce que c'est maintenant, je trouve, rendu des grands noms, il y a Jacques Lamontagne aussi. J'irai voir Jacques Lamontagne parce que, encore une fois, lui aussi, je trouve que c'est une BD d'un grand classique. C'est-à-dire qu'il fait partie des auteurs qu'on voit aussi chez les grandes maisons d'édition. Puis, je regardais un petit peu son site Internet tantôt. Ah, il en a fait des affaires. Il en a fait des séries. Et,
À la fois comme scénariste, à la fois comme dessinateur, à la fois comme scénariste et dessinateur aussi.
Ah oui, il y a un méchant beau portfolio. Là. Et ce gars-là a un dessin qui est remarquable. C'est un dessin réaliste. La série Wild West là, est extraordinaire au niveau du dessin. Et puis... tant qu'aller voir un auteur pour se faire une dédicace, je suis convaincu qu'il doit faire des dédicaces assez extraordinaires. Là.
Le degré de détail qu'il y a dans ces pages, je parlais de Wild West, c'est hallucinant sur certaines planches. Là, c'est le niveau de détail qui mêle une...
Absolument. Puis, c'est quelqu'un qui, pour moi, a un univers, un trait qui s'est beaucoup amélioré en plus à travers le temps. Au début, il y avait un dessin beaucoup plus réaliste qui était peut-être, à mon goût personnel, un peu rigide, on sentait que les lignes étaient un peu tendues. Mais maintenant, on se rapproche de la peinture avec ces dessins-là. Ces pages couverture sont extraordinaires. Ça m'étonnerait même pas peut-être de le voir dessiner un Torgal un jour ou aller dans ces grandes séries-là parce que c'est un auteur qui est extraordinaire et c'est aussi de la BD grand public celui qui est chez Dupuis aussi Pascal Colpron. Pascal Pron, qui, avec sa série Mort et déterré, et fait aussi partie des grands classiques maintenant des éditions Dupuis. C'est une série qui fonctionne. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai regardé, c'est une série qui fonctionne très, très bien aussi dans le journal Spirou. C'est quelque chose qui est apprécié, c'est quelque chose qui est aimé. C'est peut-être un petit peu plus... pour un public un peu plus jeune quand même, ce qu'il fait. Mais je trouve que c'est quand même, je ne sais pas pourquoi je dis quand même, je trouve que c'est une BD de grande qualité, encore une fois, avec des scénarios qui sont, qui sont le fun, c'est des BD qui sont le fun à lire.
C'est un duo québécois, dans le fond, c'est Jocelyn Boisvert, Pascal Dupuis, donc les deux sont basés au Québec et ils ont été recrutés par Dupuis autour de cette série-là. C'est l'adaptation, dans le fond, d'un texte que Boisvert avait déjà fait dans le passé, où on va chercher, justement, je trouve une richesse thématique avec une belle série d'action, d'humour aussi là-dedans. Donc, c'est encore là, c'est un beau cocktail, je trouve, Mort et déterré.
Oui, puis c'est... Puis ce que j'aime, c'est que ça marche. Puis on est dans l'industrie, puis on est dans l'univers de la BD, puis on est dans le monde des éditions. Et ces auteurs-là prennent ce train-là et sont dedans et font partie des auteurs qui probablement, si on allait en Europe, ne sauraient pas qu'ils sont québécois. On dirait que c'est tout simplement que c'est des auteurs de BD. Et c'est ça que je trouve super intéressant et très riche chez ces bonhommes-là. Si je fais un petit détour, quelqu'un que j'irai voir pour la personne, pour les choses qu'il fait aussi hors BD, c'est Stanley Péard. J'ai pas encore lu sa bande dessinée Fuite, mais j'ai très hâte de lire ça. Par contre, je passe par le jazz et j'ai lu son essai de préférence la nuit, qui est extraordinaire. Ce gars-là a une façon de réfléchir, de se mettre en relation avec la musique, de se mettre en relation avec son événement, d'en faire un essai à la rigueur philosophique sur la musique et sur l'état d'écoute. Et je suis convaincu qu'avec Fuite, encore une fois, il va réussir à raconter une histoire extraordinaire du descendant du poète. Là. Bon, si on va vers l'Europe, il y a... Aide-moi Raymond, j'ai un petit blanc là. Il y a Zelba qui est là, que je pense que ça vaudrait la peine d'aller rencontrer cette dame-là. Un, parce que c'est une dame de la bande dessinée qui fait des choses qui sont quand même assez personnelles et assez touchantes. Moi, je me souviens d'avoir lu Dans le même bateau, qui était l'histoire de deux filles qui étaient des rameuses et travaillaient pour un entraînement pour les Jeux olympiques. Et c'était une histoire qui était extrêmement bien racontée, bien sentie. Et Mes mauvaises filles aussi, c'est une BD qui est extraordinaire.
Et pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Mauvaises filles, c'est quoi un peu cette BD-là?
Mais c'est une BD qui m'avait laissé une forte impression parce que même si ça fait un bout de temps et même si, comme dit la chanson, j'ai la mémoire qui flanche, ce qui me reste, c'est des sentiments par rapport aux BD de cette fille-là. C'est que ces trucs sont sentis et sont très personnels. Dans Mes mauvaises filles, si je me souviens bien, c'est l'histoire de deux qui aident leur mère à mourir et ça... c'est pas des situations qui sont extrêmement faciles à raconter en bande dessinée et pas nécessairement faciles à vivre non plus là. Bon, je pourrais vous en compter longuement là-dessus, mais on va passer, restons positifs et restons sur ce festival de BD là cette année qui a ma foi énormément de monde à rencontrer. Et là, il faut aller voir aussi toute la gang de moelle graphique aussi qui ont travaillé sur l'excellent René Lévesque. Là. J'oublie le nombre de dessinateurs qui ont travaillé là-dessus, mais elles sont là. Puis et cet album-là, René Lévesque, est un album qui m'a beaucoup surpris parce qu'habituellement, j'aime pas ça, les BD où il y a plusieurs mains qui vont raconter une histoire. Mais là, on le fait sous forme de chapitres définis avec un même auteur tout le long, c'est-à-dire un même scénariste. Et t'embarques dans différents dessins, mais t'embarques aussi dans différentes époques, dans différents moments, dans différentes facettes de sa vie. Puis, à fin de compte, j'ai adoré cette BD-là, même si j'étais loin de penser que j'allais aimer ça. Puis, moi, le graphique aussi, là, je trouve qu'ils font un travail exceptionnel en édition de BD présentement, comme Pau Pau font un travail de fou aussi, où les auteurs s'amusent. Si on pense à la dernière BD de Ziviane, c'est extraordinaire. Que de plaisir! Que de plaisir.
Alors, ben donc, quelques suggestions, Stéphane Gravel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Peut-être deux petites suggestions pour poursuivre. Ben, tiens, allons vers tiens, l'auto-édition, pourquoi pas. SB, donc avec le Bouddha brisé, Étienne Desilets-Trempe, Dez également avec Frivolesque, deux auteurs qu'on a, au fil de la décennie de la vie en BD, qu'on a reçu à une ou plusieurs reprises et qui montrent bien, dans le fond, qu'il y a une production qui peut exister en parallèle un peu de la production classique et quand même aller rejoindre un public intéressant, les deux qui donnent Dez tout particulièrement dans une esthétique un peu à la manga, SB qui vient de là, mais dont l'esthétique a évolué, a progressé, mais bref, pourquoi pas aller les découvrir. Il y a l'espace auto-édition, il faut dire, en fait, dans l'espace salon, qui va vous permettre aussi de tomber sur plein d'autres gens. On pense à Frédéric Vienne-Holn, par exemple, qui a fait des trucs assez trippants aussi, si vous me permettez, le québécisme. Donc, pourquoi pas aller à leur rencontre également. Puisqu'on est dans les listes rapides, j'y vais vraiment de petits coups de cœur à gauche, à droite, là, et je vais sûrement oublier plein de gens, ça c'est clair. Jake Dion qui vient de sortir un album dont on reparlera sûrement au fil des prochaines semaines de l'émission, mais dont on a jasé déjà beaucoup pour sa réédition d'Alice. Alors vraiment un trait absolument riche, superbe, qui est capable de nous amener dans des ambiances quand même assez sombres également. Alors, il va être de passage à Québec. Louis Rémillard, le retour de l'Iroquois, il y a un an, deux ans de ça, un album superbe qui faisait suite, auquel a fait suite Trace de mocassin qui est sorti un peu plus récemment. Bref, des récits qui nous entraînent dans notre histoire et dans l'histoire autochtone du Québec. Alors, ben, pourquoi pas? Également, et peut-être un petit dernier avant de passer à quelqu'un d'autre de mon côté. Alors, allons-y, tiens, avec l'idée de rencontrer Cyrus. Cyrus qui, oui, a offert Vogue la valise, mais qui tout récemment a offert également un pari pour Dallaire, donc biographie, BD biographique autour de Dallaire, scénarisé par Marc Tessier. Alors, je reste sciemment dans le québécois de mon côté, mais ça vous fait quelques idées de rencontres additionnelles. On continue toujours à la vie en BD, toujours dans cette édition qui nous amène dans différents parcours de rencontres au gré du 35e Festival Québec BD. Qui on va rencontrer? Comment on profite de cette opportunité-là? Et pour poursuivre avec nous, ben, il y a maintenant Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois qui est avec nous. Marie-Hélène, bonjour.
Bonjour Raymond, ça va bien?
Et de ton côté, tu arrives donc à l'espace Salon du Livre, dans les dédicaces, dans les activités. Vers quel titre, vers quels auteurs, vers quelles autrices tu nous suggères de nous diriger?
Ben, je pense que je vais commencer par avec un de mes chouchous depuis des années, Francis Dernay. Et sa dernière bande dessinée qui est faite avec Alexandre Fontaine-Rousseau, Conquête du cosmos, qui est une BD, selon moi, complètement hilarante. Ceux qui connaissent déjà Francis, qui a réutilisé un peu la technique qu'il avait utilisée dans La guerre des arts, donc reprendre le même dessin, mais il va encore plus loin dans la technique d'animation parce qu'on voit que des fois, il fait juste bouger légèrement son dessin d'une image à une autre. On est presque dans l'animation, mais on est dans une bande dessinée avec l'humour complètement tordu, décalé, mais en même temps hyper logique d'Alexandre Fontaine-Rousseau. Ça donne une BD, mais d'un hilarant. Rire de même, ça m'arrive sérieusement pas souvent. Et comme j'aime dire, je me souviens quand j'étais jeune, on aimait lire les Gottlieb, puis on savait qu'il allait avoir des nouveaux comment va tuyau de poids, des espèces de phrases qui typiques sont devenues des jokes entre lecteurs de BD. Pour moi, le contraire, Quête du cosmos est rempli de blagues comme ça, comme on a tous envie de se dire maintenant, mais est-ce que Laika est revenue de l'espace? Est-ce que... Et ça... Donc, une belle tranche de rire, puis en même temps avec un fond historique, parce que c'est la conquête du cosmos et la guerre entre les États-Unis et l'URSS. Donc, le fond est vrai, mais c'est mieux que le fond de vrai, fort heureusement. Mais sinon, on part de l'histoire du Spoutnik, au premier homme sur la Lune. Une vraie belle tranche de rire qui fait énormément bien, qui je pense que nous fait démarrer le salon en grande beauté.
Et j'ai l'impression dans la sélection, parce que tu m'as envoyé quelques titres en amont de ton passage, Marie-Hélène. Une autre de tes BD, moi, qui m'a terminé avec des larmes aux yeux et à différents moments.
Complètement c'est l'inverse. De Yves. Hein? Le petit astronaute de Jean-Paul Yves, c'est Jean. Qui est l'inverse du Francis Dernier, mais qui est tout aussi magnifique, aussi fort. C'est l'histoire, du petit homme qui va naître multi-handicapé. Ça commence, sa sœur revient sur la maison de son enfance qui est à vendre. Elle retourne visiter la maison où elle a vécu avec Tom, son petit frère. Et c'est magnifique. Donc, c'est le choc d'avoir un enfant handicapé. C'est surtout la beauté d'avoir un enfant multi-handicapé comme Tom. Toute la richesse qu'il va donner à sa famille. Je trouve qu'il y a aussi un magnifique message de ne jugez pas trop rapidement ces enfants-là, ne jugez pas trop rapidement. T'sais, ne prenez pas trop vite en pitié les familles de ces enfants-là. Il y a une richesse chez les petits hommes de ce monde. J'ai envie de conter une anecdote vite. Pas longtemps après que j'ai lu le petit astronaute, je me suis trouvée hospitalisée parce que j'ai fait des pierres à la vesicule biliaire. Bon, on s'en fout un peu de pourquoi j'ai été hospitalisée. Mais donc, je marchais dans l'hôpital, je n'avais rien d'autre à faire de mes vies que de marcher dans un hôpital. Et à un moment donné, j'ai croisé une femme avec un enfant dans une chaise roulante qui me faisait beaucoup penser au petit homme. Et j'ai osé parler avec cette femme-là. On a eu une super belle discussion d'une demi-heure et je me suis rendu compte que parce que j'avais lu cette BD-là, ça m'a vraiment ouvert aussi sur Laura Les Merveilles, qui est un organisme qui aide les parents d'enfants multi-handicapés. Puis comme tu dis, on finit ça, mais les larmes aux yeux, c'est comme, je pense, les 100 dernières pages, je le lisais avec un brouillard devant moi,
c'est tellement sincère, en fait. Je veux dire, c'est tellement une BD pleine de sincérité. Puis...
Exactement. Puis c'est sincère, c'est fort. C'est pas moralisateur non plus, mais ça transporte un message super fort. Quand Tom est dans la garderie avec ses amis, on voit aussi à quel point on juge avec nos yeux d'adultes ces enfants-là, mais pour Tom, il était comme les autres enfants, lui. C'est une histoire magnifique. C'est drôle, j'ai eu deux coups de cœur en 2021. Ça a été La conquête du cosmos, Le petit astronaute. Je me dis, je ne peux pas être à deux opposés. Je ne peux pas vous dire lequel est meilleur des deux, mais les deux ont rempli quelque chose d'essentiel dans mes vies. Mais deux pôles complètement opposés. Là. C'est deux BD incontournables, selon moi.
Et tes deux autres titres, on peut les placer aussi, je ne dirais pas dans des opposés, mais je trouvais que tu nous amènes un peu dans des quêtes de soi bien différentes aussi à certains égards. Vers la tempête, notamment de Jean-Sébastien Bérubé.
Écoute, Vers la tempête, qui est une BD. Donc, Jean-Sébastien Bérubé, c'est de l'autofiction, l'autofiction en BD. Jean-Sébastien Bérubé, qui après avoir voulu être moine au Tibet, retourne vivre à Rimouski et a affronté sa propre colère, j'ai envie de dire. Affronté aussi la situation familiale dans laquelle il se retrouve parce qu'il devient relocataire de son grand-père, si je me souviens bien, qui veut qu'il travaille dans l'entreprise familiale. Lui, il veut faire son... c'est du karaté qu'il fait. C'est assez violent.
Assez violent, je pense qu'on peut
assez
dire
violent, ça. C'est ça, je pense que... Mais ça lui fait extrêmement bien, mais c'est toute sa thérapie, ce livre-là aussi rempli d'une sincérité assez incroyable. Oser dire, j'avais cette colère-là en moi, j'ai réussi par la thérapie, j'ai réussi à demander de l'aide. Il faut le faire, là, c'est impressionnant. Puis j'ai envie de vous dire, je pense que j'ai lu Le petit astronaute et Vers la tempête. Si c'est pas dans la même journée, dans la même fin de semaine, ça a été une fin de semaine assez intense, j'ai envie de dire. Mais cette BD-là, quand j'y repense avant la tempête, je suis à chaque fois comme soufflée par la force du récit, par ce qu'il raconte, par ça aussi, je pense que c'est une BD qui peut faire extrêmement bien à quelqu'un qui a peut-être peur de s'avouer sa colère ou s'avouer son besoin de thérapie. Jean-Sébastien Bérubé nous montre bien à quel point oui, ça aide, oui, quand on accepte qu'on a un problème puis qu'on accepte de le traiter, on peut vraiment aller mieux après.
Oui, puis que ce n'est pas de la faiblesse de l'accepter, justement, au contraire, c'est de la force d'accepter puis de pouvoir agir. Puis je trouve que ça montre bien aussi comment ça se passe. C'est comme, il nous montre littéralement, je veux dire, des séquences chez le psychologue, chez la psychologue, en fait, comment ça se passe, c'est quoi l'ampleur un peu. Puis j'aime beaucoup qu'ils mettent en côte à côte, en fait, la douleur physique, d'une certaine façon, et la force physique qu'il va chercher avec le karaté, et la douleur mentale et la force psychologique qu'il va chercher aussi avec ses rencontres de thérapie.
Tout à fait. Puis comment aussi il va probablement casser un moule, parce qu'on voit, on sent bien aussi son moule familial avec son père et son grand-père. Il est le digne héritier de ces gens-là. Et il ne les juge pas, mais il fait juste décider, lui, de casser ce moule-là puis et d'être sincère avec lui-même et de casser un moule pour devenir une meilleure personne, une personne de qui il va être fier. C'est assez... Non, cette BD-là est vraiment très, très forte, je trouve. Et, écoute, ça n'a pas dû être facile à mettre... parce que c'est vraiment sortir ses tripes là, dans une bande dessinée. C'est vraiment ça.
Et là, j'ai l'impression qu'on fait du balancier. J'avais dit l'entrée de jeu. Est-ce que tu nous amènes vers le livre de mars à Québec, en fait, rien de sérieux, de Valérie Boivin?
Ben oui, comme là, on est complètement dans autre chose, mais en même temps, on est encore dans une quête de soi ou de l'autre, puisque Valérie Boivin, qui son alter ego dans la bande dessinée, qui en a marre d'être seule, se cherche un compagnon via les applications de rencontre. C'est juste, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau, puis en même temps, elle le raconte avec tellement de sincérité, elle aussi, toutes ces petites rencontres-là qui ne marchent pas, celles que tu as pas, que tu as l'impression que ça va enfin marcher, mais finalement, non, ça ne marche pas. Puis finalement, aussi, à travers ça, se dire, ben, tu sais, finalement, je ne suis pas si mal que ça tout seul. Puis son dessin qui marche, qui est d'une douceur. Moi, j'avais Valérie Boivin, j'aime beaucoup, beaucoup son dessin depuis longtemps. Elle fait aussi des cartes. Puis j'aime beaucoup ses cartes. Mais tu sais, je trouve qu'elle a un dessin doux. Son personnage, il est tout doux. On a envie que ça marche pour elle. On a envie de la suivre dans sa quête. C'est une bande dessinée qui est réconfortante, finalement, qui fait du bien, qui fait sourire. Puis on la lit comme on écoute une bonne amie, finalement, tu sais, qui nous raconte ses déboires amoureux. J'ai envie de dire, elle a les déboires amoureux d'à peu près tout le monde qui est célibataire en 2020, dans les années 2020, 2021, 2022. C'est ça, le plaisir des réseaux sociaux et des sites de rencontres en ligne qui sont peut-être des sites de non-rencontres, finalement.
Aussi. En fait, surtout, peut-être, surtout, même, voir ce qui se passe dans le livre. Là.
Non, c'est ça, c'est pour la pauvre petite. Là. Elle a quand même pas mal toutes les spécimens.
Et dernier clin d'œil, avant de te laisser, Marie-Hélène Vaujoie, tu nous amènes sur l'idée d'aller à la rencontre aussi d'Héloïse Marseille.
Écoute, belle découverte cette semaine. Il est arrivé mardi, donc il y a deux jours, on est le 7. Donc, il est arrivé en librairie le 5. Héloïse Marseille, qui est une jeune BDiste de Montréal, Confession d'une femme normale. Écoute, elle aussi, là, ça, c'est encore de l'autofiction. Louise Marseille se rend compte que ses parents n'ont jamais voulu lui parler. Elle était trop gênée probablement pour parler de sexualité à la maison. Donc, elle a un peu tout expérimenté par elle-même, avec tous les questionnements qu'un enfant a. Donc, elle commence vraiment avec l'enfant, ses premiers questionnements qu'on a, ses premières manières de se masturber qui sont très enfantines, j'ai envie de dire. Jusqu'à ses premières découvertes, son premier amoureux, ses questionnements aussi. Est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis homo? Est-ce que je suis bi? Est-ce que je suis queer? Est-ce que je suis vraiment une femme? Parce que dans le fond, peut-être que... Ah, tu sais, il y a beaucoup de questionnements. Je pense que... Puis elle se pose des questions. Lise Marseille, je pense, n'a pas encore 30 ans ou début trentaine. Puis elle se pose vraiment des questions. C'est drôle, je le disais, puis j'ai des enfants de début vingtaine, puis ils se posent exactement les mêmes questions. J'ai vraiment envie de le laisser traîner chez nous subtilement pour qu'ils le lisent et peut-être qu'on en parle après. Parce que je trouve qu'elle pose les bonnes questions. Ça parle de sexualité, j'ai envie de dire, c'est cru parce qu'elle appelle un chat un chat. Mais en même temps, c'est jamais déplacé, c'est jamais vulgaire, c'est jamais... C'est fait avec énormément de justesse, ça aussi, avec énormément de vérité, avec énormément, voici, c'est quoi la vie sexuelle d'une jeune fille de 17 à 25 ans, à peu près.
Et on ne voit pas grand-chose là-dessus qui est non plus, c'est pas un sujet qui est si courant que ça, d'ailleurs.
Non, puis en plus, ben là, comme je te dis, c'est ses expériences à elle. Donc, ça aussi, un peu comme pour d'autres raisons, un peu comme pour Jean-Sébastien Bérubé, il faut oser le faire, il faut oser le dire, parce que là, sa période où elle couche un peu avec tout le monde, elle finit par avoir un chum pour s'aider, mais pourquoi finalement se trace? Elle parle des choses sans, j'ai envie de dire, sans pudeur, carrément, mais elle le fait vraiment très bien, puis je pense qu'on ne peut pas lire cette bande dessinée-là sans se poser des questions sur notre propre parcours, mais donc j'ai envie de dire, c'est vraiment pour moi une BD qui est relativement... Peut-être pas. Oui, essentiel, parce que c'est quand même essentiel à la vie, la sexualité. On ne se fera pas d'accroire. Là. On en a tous une, plus ou moins. Donc, je trouve qu'elle m'a. Vraiment, ça a été un beau coup de cœur. Je l'ai un peu lu cette semaine parce que tu m'as demandé qu'on parle du Salon du Livre. Puis en regardant les invités, je vois son nom, je vois la bande dessinée, je trouve la couverture sympathique. Donc, je l'ai un peu lu. Naïvement, j'ai envie de dire, mais je suis vraiment très contente de ma nouvelle découverte. Puis ça va rester une de mes belles lectures de 2022.
Et en espérant que ça fasse le chemin vers les autres, vers ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. Hey, Marie-Hélène Vaugeois, merci beaucoup.
Ben, merci à toi, Raymond. Puis bon festival de BD.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, il faut dire en fait qu'on est en plein le Festival Québec BD, on est en plein Salon international du livre de Québec, mais on le sait aussi, au-delà du cœur événementiel, il y a une multitude d'activités qui vont se poursuivre. On pense seulement au pavillon de la BD du côté de Québec BD, et on peut penser aussi à différentes activités qui vont continuer à ponctuer notre calendrier BD, et notamment le 13 avril, 19h, à la Maison de la littérature, il y a la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD dans lequel on va vous proposer un entretien avec Christian Quesnel. Et pour en jaser un peu avec nous, pour mettre la table autour de tout ça, Michel Giguère est en notre présence. Bonjour Michel.
Et bonsoir Raymond, merci de me recevoir encore.
Mais ça fait plaisir, merci d'être là. Michel Giguère, en fait, d'entrée de jeu, ces dernières années, là, Christian Quesnel me semble s'être imposé sur la scène québécoise de la bande dessinée. On peut presque dire aujourd'hui qu'il se passe de présentation, mais ça reste quand même pertinent de cerner le parcours d'un auteur. Alors Michel, je te laisserai le soin de nous résumer, de nous présenter un peu Christian Quesnel.
Oui, alors, trois fois récipiendaire du prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, Christian inaugure en 2009 le studio du Calque à Londres. Il devient du même coup le premier BDiste en résidence dans l'histoire de l'organisme. Ses albums hybrides en couleur directe lui valent de nombreuses distinctions, notamment le BDiste Causa 2021 du Festival Québec BD pour « Vous avez détruit la beauté du monde » aux éditions Moelle Graphique. Et ce même titre lui a valu d'être finaliste au prix des libraires du Québec 2021. Et même chose cette année, avec Mégantic, Un train dans la nuit aux éditions Éco-Société.
Et d'ailleurs, en fait, au moment de sa présence à Québec, il est sur le retour presque du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, où Anne-Marie Saint-Cerny et lui ont décroché le premier prix Éco-Fauve pour Mégantic, justement.
Oui, écoute, Christian Quesnel est bardé de distinctions. La qualité artistique, la qualité narrative de ses œuvres est depuis longtemps reconnu par les institutions publiques. On l'a vu, on parlait du Calque tantôt. Mais on dirait que le grand public et même le milieu de la bande dessinée québécoise a tardé à lui accorder pareille reconnaissance. Écoute, c'est ma perception, là. Par exemple, des splendeurs comme Ludwig et puis Félix, L'Alouette en liberté sur Félix Leclerc, n'ont pas reçu, je trouve, la résonance qu'elles méritaient. Et possiblement parce que ces albums dont je disais que c'est des albums hybrides, là, c'est-à-dire qu'ils tiennent de la BD et autant du livre illustré, ils sont justement inclassables. Ils défient toute catégorisation et ils ont longtemps, comment dire, je pense qu'ils ont déconcerté un peu les personnes qui sont rompues à la BD classique.
Et il faut dire, parce que quand on regarde un peu le style de Quesnel, on peut trouver justement qu'à certains égards, on est loin de l'esthétique dite conventionnelle de la bande dessinée.
Oui, il a développé un style très singulier, reconnaissable entre tous, d'images peintes en médium mixte, avec généralement des coulées d'aquarelle, une méthode qui a développé ces dernières années, mais aussi des collages, des ajouts de texture, de relief. Et puis en plus, son œuvre est pleine de contradictions quand on y pense. D'abord, dans la facture visuelle, personnages et paysages allant d'un réalisme quasi photographique à un flou artistique qui tutoie des fois l'abstraction. Et puis ensuite, il y a parfois un grand écart entre, d'une part, le réalisme du contexte et le réalisme de la représentation, et d'autre part, le ton étrange, onirique, voire même fantastique. Kennel s'inscrit pas dans la BD commerciale, c'est rien de le dire. Mais de par l'esthétique unique qu'il a développée, de par son anticonformisme, sur le plan du fond comme de la forme, eh bien, il occupe seul un créneau à part. Comme tu disais en intro, il s'est doucement imposé, particulièrement à partir de « Vous avez détruit la beauté du monde » et puis là, avec Mégantique. Et je souhaite que les lecteurs qui ont apprécié ces titres-là, des titres qui ont davantage rayonné, vont découvrir à rebours le travail antérieur de Christian Kennel.
Oui, parce qu'il faut dire, en fait, d'entrée de jeu, là, le succès que connu « Vous avez détruit la beauté du monde », ou même Mégantique, ou encore sa participation au sein du collectif René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, mais c'est un succès qui est considérable, mais ce n'est pas nécessairement un succès qui allait de soi. Je veux dire, on parle de sujets qui ne sont pas toujours faciles, le suicide, de la tragédie, de la politique aussi.
C'est assez fou quand on y pense. Et il faut s'en réjouir. Tu sais, à la sortie de Paul Entretien et commentaires, j'expliquais aux journalistes que la bande dessinée québécoise traversait vraiment une super belle période, sans précédent selon moi, là. Mais pas juste sur le plan de la création, parce que le lectorat aussi a connu un développement impressionnant, de sorte que le public, à mon sens, est prêt à passer à un autre stade, prêt à aller plus loin que simplement apprécier, embarquer dans les histoires. Le public est prêt à réfléchir à pourquoi il apprécie et comment le BDiste l'a embarqué. Prêt donc pour un ouvrage comme Paul Entretien commentaire, qui traite du langage de la bande dessinée, qui traite de narration, etc. Et quand je disais ça, l'ouvrage n'était pas encore en librairie. Et si je me fie à l'accueil qu'on lui réserve depuis sa sortie le 10 mars, ben j'ai l'impression que le public me donne raison. On vit une manière d'âge d'or, tant chez les BDistes que chez les BDphiles québécois.
Et justement, Michel Giguère, je suppose que mercredi soir prochain, l'auditoire qui va aller à ta rencontre, aller à la rencontre de Christian Kennel pour vous entendre discuter de BD, va se faire entraîner nécessairement dans cette réflexion sur le médium dont tu parles.
Ah oui, j'y compte bien. D'autant que parmi les BDistes, tu sais, il n'y en a pas des tonnes qui sont à l'aise de décortiquer leur mise en scène ou leur mise en page, etc. Pour un, par exemple, un Michael qui plonge là-dedans de manière éloquente et passionnante, tu le sais, tu es bien placé pour le savoir, il y en a 10 qui ne savent pas trop quoi dire parce qu'ils fonctionnent à l'instinct. Ils ont le sens de la narration en images, mais pas nécessairement des prédispositions pour théoriser là-dessus et puis analyser leur travail.
Oui, puis Kennel, en fait, c'est tout le contraire aussi. Il réfléchit tellement à sa pratique qu'il a choisi de retourner sur les bancs d'école pour nourrir sa démarche. Il a une maîtrise en muséologie et pratique des arts en bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais, où il est présent actuellement au doctorat.
Oui, et son mémoire de maîtrise portait sur la temporalité, plus spécifiquement sur la recherche et la création de façons de passer d'un temps de narration à un autre sans briser la fluidité du récit, entre autres en superposant les images plutôt qu'en les alignant les unes après les autres. Donc, on va parler de ça. Et pour ce qui est de son doctorat, il y est question de transposer dans une exposition ce que lui appelle l'appareil narratif de la bande dessinée. Mais que les gens qui nous écoutent aujourd'hui le se rassurent, je vais être là pour traduire les propos savants de Maître Kennel.
Et la réflexion de Christian Kennel, à mon sens, ne s'enferme pas, entre guillemets, non plus dans le médium comme tel ou dans le support papier. Tu l'as mentionné, il s'intéresse au volet exposition, mais aussi on a pu le voir au fil des années dans des axes interdisciplinaires. Donc, il a multiplié les collaborations. Donc, oui, à l'écrit, avec une essayiste activiste, avec des historiens, avec des sociologues, avec des criminologues, mais également dans des visions scéniques de la bande dessinée, avec des danseurs, avec des musiciens.
Oui, même des orchestres. Alors, tout à fait. On va d'ailleurs projeter des images que Christian m'a fourni des images des spectacles multimédia sur Ludwig et Félix et puis sur des expositions ou d'autres événements artistiques. Et c'est vrai qui a beaucoup à discuter avec mon invité. La soirée va passer cruellement vite, je le sais, sans compter qu'au-delà de l'analyse des procédés narratifs, au-delà de l'esthétique distinctive que Christian a développée, il y a dans son corpus énormément de matière sur laquelle échanger. Son intérêt pour l'histoire que je partage, et puis son intérêt pour le pouvoir de la musique, sur les figures nationales que sont René Lévesque et Félix Leclerc, le scandale de la catastrophe de Mégantic, puis aussi la dimension, je dirais, occulte, la dimension spirituelle qui est sous-jacente à plusieurs de ses œuvres. Alors, il y a de la viande autour de l'os, là. On va finir la diapo-conférence en force par le dévoilement de certaines planches de son dernier projet autour d'un voyage, imagine-toi, de Lovecraft dans la ville de Québec.
Évidemment, dans l'émission de cette semaine, on est dans les coups de cœur autour du Festival Québec BD. Alors moi, j'ai envie de faire du pouce sur tout ce qu'on a dit depuis tantôt et vous dire, auditeurs, auditrices, ben, allez rencontrer Christian Quesnel, allez à la découverte de ses livres au salon, au festival. Et ensuite, après avoir mis la main là-dessus, après les avoir parcourus, si ce n'est déjà fait, ben là, plongez dans une rencontre qui s'annonce assurément, oui, dense, mais passionnante, intéressante, le 13 avril, 19h, à la Maison de la littérature. Donc, Michel Giguère qui rencontre Christian Quesnel, de Beethoven à Lovecraft, en passant par Mégantic. Je vais suggérer de réserver pour celle-là, pour être sûr d'avoir sa place. Et ma foi, ça sera une belle continuité dans les réflexions qu'on propose, qu'on amorce, qu'on développe autour, justement, du médium et de la richesse de la bande dessinée. Alors, Michel Giguère, merci beaucoup.
Et merci, on se revoit bientôt.
Eh bien, voilà qui conclut cette émission. En espérant vous avoir inspiré peut-être un peu au fil de vos parcours à vous au Salon du Livre de Québec, au Festival Québec BD. Nous, la semaine prochaine, on aura l'occasion de plonger avec l'un des invités du festival, Joanne Diaz-Canales, et l'une des invitées du festival, Teresa Valero, au fil d'une longue entrevue. Alors, d'ici là, passez une excellente semaine. C'était Raymond Poirier au micro.